Donc, au-dessus de la tête de l'image que nous avons décrite, nous avons énuméré dans la partie supérieure sept planètes. Trois dans le seul cercle du feu lumineux, une seule dans le cercle du feu de ténèbres, qui est soumis au premier feu, trois à nouveau dans le cercle inférieur du pur éther, toutes partant de l'Orient et se dépassant mutuellement au sommet de leur trajectoire en cercle, se dirigent à nouveau vers l'Orient pour rejoindre leur origine et recommencer leur course. Trois se trouvent dans le feu lumineux, une seule dans le cercle du feu noir inférieur, trois autres se déplacent. Trois autres se déplacent. Dans le pur éther, de sorte que celles qui se trouvent dans le feu sont enflammées par lui. Mais ce même feu est conforté dans son ardeur par les énergies. De même, le bois est enflammé par le feu, cependant qu'il est dans son ardeur conforté par ce même bois. Quand le feu prend à l'intérieur, ce que Saint Jean de la Croix aussi prend cette image, quand le feu prend, il prend à l'endroit où il y a la sève, vous savez. Alors le feu, il est dans le bois, et en même temps, le bois contraint le feu. Il crépite. C'est comme ça que, du coup, il y a des mouvements dans l'oraison qu'on n'aurait jamais si on ne faisait pas oraison. C'est la purification. De même, le bois est enflammé par le feu, cependant qu'il est dans son ardeur conforté par ce même bois. Les planètes dans le feu lumineux sont au nombre de trois. Si elles dépassaient ce nombre, elles donneraient au dit feu une trop grande ardeur et elles le consumeraient au cours de leur rotation. Et s'il n'atteignait pas ce nombre, ce feu dépouillé d'une aide convenable verrait son ardeur s'engourdir. La première planète, par sa splendeur, assure la splendeur du soleil. La seconde, par son ardeur véritable, contraint le soleil à conserver une course droite. Entouré de ces planètes, le soleil est ainsi dirigé et retenu, si bien qu'il peut conférer au firmament et au monde entier par sa chaleur et par son rayonnement un climat équilibré et convenable. Quant aux trois planètes qui se trouvent dans l'éther et qui tient sa pureté du feu supérieur et de l'eau inférieure, c'est ce même éther qui détermine la pureté de leur rayonnement. Mais leur propre pureté purifie également l'éther. Elles sont trois, ni plus ni moins, car elles garantissent exactement, sans excès ni défaut, le maintien de la dite pureté. Elles l'assistent par un juste équilibre, sans l'alourdir par un excès d'humidité, ni la détruire par un excès de subtilité. La première au-dessus de la Lune, en ce même éther, assiste la croissance de la Lune et évite qu'elle n'aille trop loin. La seconde, à ses côtés, surveille la décroissance, afin que la Lune ne s'évanouisse totalement. Le ministère de ces planètes est d'observer la Lune, de la suivre, de l'exhorter avec discernement comme il convient à assurer l'équilibre du monde entier. Le monde sublunaire, c'est le monde de toutes les forces perdues du paradis originel. Toutes les forces préternaturelles, elles ne peuvent être retrouvées qu'en Marie, sinon elles appartiennent à l'Antichrist. Donc, ce ministère des planètes est d'observer la Lune, de la suivre, d'exhorter avec discernement, comme il convient, à assurer l'équilibre du monde entier. En direction du midi, sur le côté de la figure, sous ses pieds encore, le Soleil marqué et caractérisé selon ce mode, selon cet ordre, apparaît en son cercle particulier. C'est parce qu'il se déplace à la fois vers le midi et vers l'occident, non point de façon à se trouver sous les pieds de l'homme, mais parce que, rejoignant à l'occident en même temps que la révolution du firmament, les zones du monde qui sont situées au couchant, il s'écarte des contrées septentrionales pour ressurgir, il s'écarte quand même, pour ressurgir au levant en même temps que le firmament. Du milieu du signe supérieur de la première planète, située au-dessus de la tête de la figure, se détachent des rayons. L'un descend vers le signe du soleil, cette planète essentielle, la première que l'on aperçoit au levant, quand monte la lumière du jour, libère les rayons de son énergie. Ah oui, j'ai oublié un mouvement possible. Là, on n'est pas en oraison. On n'est pas en oraison. On n'est pas en oraison. Baillez aussi. Cette planète essentielle. Qu'est-ce que ça se balade? La première que l'on aperçoit au levant. Quand monte la lumière du jour. C'est plus les esprits glisseurs, c'est les esprits baladeurs. Cette planète essentielle, la première que l'on aperçoit au levant, quand monte la lumière du jour, libère les rayons de son énergie. Le rayon qui part en direction du soleil aide le soleil, tempère sa course, afin qu'il ne libère pas ses feux avec excès. Ainsi, les créatures se maintiennent mutuellement et elles se soutiennent l'une l'autre. La seconde planète adoucit l'action du soleil, la troisième le sert comme un esclave. Ces planètes sont les aides du soleil. Sans elles, il ne pourrait exister. Elle lui confère sa chaleur, de même que la vue, l'ouïe, l'odorat procurent au cerveau la chaleur et les forces. Considère également que le signe du soleil envoie aussi des rayons qui touchent les uns la tête du léopard, les autres le signe de la tête du lion, les autres celui de la tête du loup, point cependant le signe de l'ours. Un rayon n'atteint pas le signe de l'ours. Le soleil est en effet la plus puissante des planètes. Il réchauffe et réconforte de son feu le firmament tout entier. Sa splendeur illumine l'orbe terrestre. L'orbe, ça veut dire le cercle de la Terre, la surface de la Terre. En résistant par les forces de son énergie au grand vent d'est, du sud, de l'ouest, et en empêchant ces derniers de dépasser les limites que Dieu leur a assignées. Il ne touche cependant pas le vent du septentrion. Parce que ce dernier, en sa qualité d'ennemi du soleil, méprise toute la lumineuse splendeur. Le soleil en retour le méprise, lui qui n'émet aucun rayon. Il se contente de lui barrer sa route pour refouler sa fureur. Le soleil jamais ne pénètre en effet en ces zones dans lesquelles le diable fait montre de sa fourberie et de son opposition. De son opposition à Dieu. Mais, de même que les sens et l'intelligence de l'homme protègent le corps entier, de même, le soleil émet un second rayon au-dessus du signe lunaire. Et par sa chaleur, c'est lui qui enflamme la lune. Très très beau. Le mystère du Christ qui passe au-dessus de la Vierge. Et à chaque fois, voyez que vous utilisez l'intelligence, c'est-à-dire l'intellect-agence, à travers les sens, sens du toucher, sens de l'odorat, sens de l'ouïe, sens du goût. Si vous utilisez les sens externes pour que votre intellect-agence, pour court-circuiter le cerveau, l'intellect possible, pour faire un acte d'adoration, passer les sens externes, petit oiseau, la verdure, l'odeur de la rose, le goût de la calcédoine. Hein? Le sens du toucher existe tout de suite avec l'intellect agence qui dépasse le cerveau. Ils utilisent le corps, l'intellect agence, mais dépasse le cerveau. Et là, mon existence s'engloutit. En l'adorant à l'intérieur de mon Créateur, dans l'unité d'une joie parfaite, j'ai fait un acte d'adoration, ça m'a pris 3 secondes, c'est ce qu'elle explique ici. Alors le soleil peut rayonner au-dessus de la lune, il n'y a plus de médiumnité. C'est clair. Vous l'aviez tout de suite compris, j'espère. De même que l'essence et l'intelligence de l'homme protègent le corps entier, de même le soleil émet un second rayon au-dessus du signe lunaire. Et par sa chaleur, c'est lui qui enflamme la lune. Il émet également un rayon au-dessus du cerveau de l'homme. Et ce rayon, il le fixe, puis il le déploie jusqu'aux deux talons de la figure humaine. Car c'est le soleil qui, au corps humain de haut en bas, confère énergie et équilibre en confortant surtout le cerveau. En le confortant, un peu comme le bois conforte le feu qui a pris la sève du bois. En confortant le cerveau. Pour qu'il n'y ait que l'intellect agent dans l'essentiel spirituel de l'essence de la lumière de l'intellect contemplatif à travers l'essence externe. C'est à travers l'essence externe qu'on reçoit et qu'on maîtrise, qu'on mue les éléments. Ce n'est pas imaginatif. Ce n'est pas métapsychique. Ce n'est pas paranormal.
Est-ce qu'il y a un
même? Ce n'est pas astral. Ainsi, la partie supérieure de l'homme en tant que telle, par l'essence, pénètre tous les organes intérieurs. De même que le soleil illumine la terre tout entière. Lorsque sous le soleil, des ouragans dispersent les éléments, le feu du soleil est enténébré comme lors d'une éclipse. C'est là une allusion aux errements de l'homme qui conduisent à l'erreur les cœurs et les esprits qui ne suivent plus le droit chemin de la loi, mais qui se perdent en querelles intestines. Le dit rayon touche les talons de l'homme, parce que de même que le cerveau gouverne le corps entier, de même que le soleil équilibre par ses énergies tous les membres de l'homme, de même il fait croître toutes les autres créatures. Le talon, c'est l'autorité. La cinquième planète tempère les feux du soleil. Elle régularise également la croissance de la lune en frappant de ses rayons la corne gauche de l'astre. La sixième planète a la même action en frappant de ses rayons la corne droite de la lune. Les deux planètes modèrent également les vents du couchant. Considère également que la lune irradie au-dessus des sourcils et au-dessus des chevilles. Hein, vous avez vu la planète, hein? Donc, c'est un dessin. Là, il y a la planète, il y a un rayon au-dessus de la figure ici, sur les sourcils, et au-dessus des chevilles. C'est que la vertu de la lune consiste à équilibrer le corps de l'homme, de même que les sourcils protègent l'œil afin qu'il voit, et de même que la cheville supporte le poids du corps. Les forces lunaires, selon la disposition de Dieu, tempèrent les membres de l'homme du haut en bas. Leur action n'est pas aussi parfaite que celle de l'énergie solaire, parce que la lune exerce son ministère avec plus de parcimonie. La lune, d'autre part, opère sa course dans le chaud, puis dans le froid. Quand elle grandit, quand elle croît, elle est chaude. Et inversement. Le soleil, lui, arde du levant au midi. Ce n'est que plus tard, vers le couchant, qu'il attire à soi la froideur. Et elle aurait pu dire que c'est le matin, quand il va apparaître, il ne l'attire pas, il pousse la froideur. C'est pour ça qu'il fait beaucoup plus froid à 4h du matin, à 5h du matin, que du soir jusqu'à 3h du matin. Et il fait beaucoup plus froid avant le lever du soleil que une demi-heure avant le lever du soleil. Ce qui est évident. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur, c'est pareil. La lune reçoit du soleil sa lumière qui, au début, était faible. Le soleil enflamme le cercle éteint de la lune par une étincelle qu'il fait jaillir de soi comme à l'aide d'une lampe. La lune est alors à son zénith. Ensuite, elle commence sa trajectoire descendante. Ouais, la lune montante, la lune descendante. En fonction de ça, il faut planter ou pas planter. Hein. C'est bizarre, pourquoi j'ai pas eu de carottes ? Il ne fallait pas la planter à la lune descendante.
Oui.
Mais parce que quand tu plantes quelque chose qui va pousser dans le bas, alors il faut la planter à la lune descendante. La carotte va pousser. Si c'est une plante, un fruit qui doit pousser vers le haut, Tu vas la planter à la lune montante.
Pas de la graine.
À cause de la serre.
Ça dépend. À Caufry, on peut le voir. Parce que pour les choux, si tu ne veux pas qu'elle monte, il ne faut pas le planter à lune montante.
Mais bien sûr, toute une question de tempérance.
C'est une des maladies pour lui. Alors, les choux, la ligne descendante, les racines.
Les... C'est très simple. Or, de même que le soleil enflamme et illumine le cercle de la lune, il restaure tous les êtres inférieurs, ceux du firmament et ceux qui sont au-dessous du firmament. Et la lune lui apporte son aide. Elle illumine seulement les êtres inférieurs, cependant que le soleil illumine ceux d'en haut et ceux d'en bas. Et oui, de là en dessous et de là en dessus. Et l'homme est capable de mouvoir les éléments d'en haut et les éléments d'en bas. La lune les contraint et lui donne l'équilibre pour la croissance. Le soleil consumerait bien des créatures si la lune ne lui résistait. Par son humeur froide, elle tempère l'ardeur du soleil. Ainsi, le soleil et la lune, c'est une miséricorde, la Sainte Vierge, c'est vrai. Ainsi, le soleil et la lune, selon cette divine ordonnance, sont au service de l'homme. Et selon l'état de l'air et de la brise, ils lui confèrent tantôt la santé, tantôt la maladie. Le soleil étant son action du cerveau au talon, la lune des sourcils à la cheville. Lorsque la lune grandit, elle croît. Le cerveau et le sang croissent également. Et inversement. Lorsque la lune baisse, diminue, le cerveau et le sang diminuent. Si le cerveau de l'homme, en effet, ne changeait pas d'état, l'homme sombrerait dans la folie. Et il serait plus sauvage qu'une bête féroce. Et vous ne faites pas oraison, il n'y a pas Jésus et Marie dans votre vie, vous devenez forcément cinglé. C'est le monde d'aujourd'hui. 85% des Français prennent des médicaments parce qu'ils sont psychiques. C'est énorme. Si le sang ne connaissait qu'un seul et unique mode, s'il n'avait pas le sentiment de croître et de décroître, l'homme aurait au fait de subir et la ruine et la mort. Lorsque la lune est pleine, le cerveau lui aussi goûte la plénitude. Et l'homme devient insensé. À la nouvelle lune, le cerveau se vide, et l'homme lui aussi quelque peu vide de sens. Mais lorsque la lune est feu et sécheresse, le cerveau est lui aussi feu et sécheresse. De tels hommes sont malades du cerveau, ils sont moins sensés, ils n'ont plus tous les sens qui leur permettent d'agir. À la lune humide, cerveau également humide. De tels hommes sont eux aussi malades du cerveau et ils perdent le sens. À la lune équilibrée, l'homme est sain de cerveau et de tête. Ses sens sont vifs parce que par l'état tempéré des éléments extérieurs, les humeurs élémentaires à l'intérieur de l'homme connaissent le repos. L'importance du rosaire. L'importance du rosaire. D'ailleurs, j'ai amené suffisamment, je crois, pour que vous ayez chacun les 20 mystères du rosaire. Parce qu'il faut savoir ce qu'il y a dans les mystères du rosaire, dans la doctrine de l'Église, dans le concret de l'aspiration surnaturelle et infaillible de cette lumière qui se déploie en l'intérieur de chacun de ces 20 mystères. On n'abandonne pas le rosaire. Sinon, tant pis, pour vous, j'ai de très bonnes adresses de psychiatres. Lorsque la lune est équilibrée, l'homme est sain de cerveau et de tête, ses sens sont vifs parce que, par l'état temps, mais il faut que ce soit dans l'horizon, toujours pareil. Hein? Il faut que ce soit spirituel. Il ne faut pas imaginer le mystère du rosaire. Il faut les contempler. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas comment on pénètre par préparation dans chacun des mystères du rosaire, il y a Marie, modèle de notre foi. C'est tous les exercices qui vous permettent de rentrer dans la présence réelle, réelle de la Lune, de Marie. Et du coup, ensuite, dans cet état, vous faites les mystères du rosaire. Vous les contemplez, vous les lisez. Vous l'avez fait une fois, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de le faire une deuxième fois. Vous dites le chapelet, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas de cause diminuante. Dans la grâce de Dieu. Hein. Si vous ne l'avez jamais fait, alors, coup de pied au cul, et vous prenez ça, et vous lisez ça, s'il vous plaît. Merci. Enfin, coup de pied Eh oui, l'homme ne peut vivre sans la tempérance et sans l'assistance des éléments. Le soleil, lui aussi, et les autres planètes touchent toutes les régions du monde à l'exception du septentrion. C'est selon ce mode que les planètes dont nous avons parlé ont été disposées au firmament par le créateur du monde. Quant à toi, homme, qui vois ce spectacle, c'est Jésus qui parle à Saint-Hildegarde. Quant à toi, homme, qui vois ce spectacle, comprends que ces phénomènes concernent également l'intérieur de l'âme. Les sept planètes, en effet, sont situées respectivement dans le cercle du feu clair, dans celui du feu noir, puis dans celui du pur éther. C'est qu'elles représentent les sept dons du Saint-Esprit. Les planètes situées dans le cercle du pur éther signifient que ces dons s'exercent à trois moments du monde, avant la loi, sous la loi et sous l'évangile. Le soleil dans le cercle du feu noir désigne le Dieu Tout-Puissant. Les trois planètes dans le pur éther rappellent aussi l'action des trois personnes de la Déité. Et toutes les planètes émettent leurs rayons en direction des différentes têtes d'animaux. Elles suscitent autant de vertus, autant de dons de l'Esprit Saint. Donc il faut avoir la sagesse naturelle de Noé. Il faut avoir la sagesse messianique de Joseph dans son accomplissement. Et la sagesse accompli de la Jérusalem terminale de l'Église. Et du coup, quand vous conjoignez les trois, vous avez les sept dons du Saint-Esprit. Les 16 étoiles principales, situées dans le cercle de feu clair, ont une action comparable. Elles consolident le firmament, elles tempèrent les vents par une action équilibrée. Leur action est comparable à celle des vaisseaux sanguins dans le corps de l'homme. D'autres étoiles, dans le cercle de pur éther et dans le cercle d'air blanc, réchauffent le firmament et empêchent les nuages de dépasser les limites qui leur sont assignées. Toutes ces énergies, au service de l'homme, partent des astres vers les vents, puis vers les nuages, les nuées qui sont autant de langues. Ah, oh, ah. De cette manière exposée, la figure de l'homme est embrassée et entourée de ses signes, parce que l'homme est à ce point conforté, autant que protégé, par les énergies des éléments et par l'aide qu'il lui apporte. Qu'aucun assaut adverse ne peut l'arracher à son statut, guidé qu'il est par la puissance divine. Mais il faut donner à ces phénomènes une autre signification. L'apparition des 16 étoiles, 8 plus 8. Oui, c'est la mission du Christ dans l'âme. 8, 8, 88. Pour contrer, 3 fois 6, la présence de l'Antichrist et son influence dans l'âme. 3 fois 6, 18. La mission surnaturelle du Christ est universelle. Et l'influence rayonnante de l'Antichrist, 3 fois 6, est individuelle. C'est un chiffre d'homme. C'est Saint Jean qui le dit, hein? C'est un chiffre d'homme. L'apparition de ces étoiles, donc, dans la circonférence du cercle où apparaît l'image du feu clair, nous montre que c'est dans la pureté de la puissance divine que résident les principaux docteurs. C'est eux qui ont enseigné. C'est eux qui enseignent les 10 préceptes de la loi au cours des 6 âges du monde. 4 entre les têtes du léopard et du lion. 4 entre celles du lion et du loup. 4 également entre celles du loup et de l'ours. Et de l'ours et du léopard. Ce sont ces mêmes docteurs dans les 4 parties du monde qui exhortent tous les fidèles à redouter Dieu. Son jugement, les peines de l'enfer et les tribulations du corps, jusqu'à ce qu'ils renoncent au péché parce qu'ils craignent les péchés, même si l'amour de Dieu passe là au second plan. 8 de ces étoiles brillantes sont placées entre les têtes, au milieu, de part et d'autre, et les 2 étoiles opposées situées entre 2 têtes s'envoient mutuellement leurs rayons en direction de l'air ténu. Les 8 béatitudes, en effet, qui vivent dans la perfection des vertus décrites, qui proclament l'amour de Dieu et de son prochain, mettent tout leur zèle à communiquer leur souffle au désir des croyants, jusqu'à ce que ceux-ci, même s'ils sont de bien des façons les esclaves du siècle, oublient les soucis temporels et se hâtent de rejoindre les biens célestes. Les 8 autres étoiles, quant à elles, de chaque côté des étoiles médianes, paraissent plus proches des têtes que nous avons décrites. Elles dirigent leurs rayons exclusivement en direction du feu noir. Le noir, c'est le cercle, le deuxième cercle inférieur. Les mêmes béatitudes, en effet, soutenant la perfection authentique des autres vertus dans l'adversité comme dans la prospérité, envoient l'acmé de leur souffle en direction du feu du jugement, acquiescent à ceux qui doivent servir Dieu dans l'esprit, parce qu'il n'est pas de faute, même vénielle, qui ne doivent être négligées et échapper à l'examen du jugement et du châtiment de Dieu. Tu vois aussi que le cercle de pur éther, celui de l'air dense, blanc et lumineux, sont également pleins d'étoiles qui envoient comme des éclairs vers les nuées qui leur font face. C'est que la pureté de la pénitence véritable, celle aussi du discernement des œuvres saintes, puise leur vigueur dans la diverse splendeur de la rationalité. Or, ces étoiles sont aussi diverses et multiples que diverses sont les forces de béatitude dont font montre en soi la pénitence et le discernement des œuvres saintes. Leur splendeur confère la raison aux esprits des fidèles. Cette splendeur, elle la communique aux fidèles, si bien que toutes leurs actions apparaissent raisonnables aux yeux de Dieu. Si les nuées situées dans la partie droite de la figure envoient vers la roue dont nous avons parlé, et dans la direction de la figure comme 2 langues, séparées l'une de l'autre, comme 2 petits ruisseaux, c'est que les esprits des hommes heureux pour leur prospérité montrent 2 testaments, distants l'un de l'autre, dans 2 directions différentes, le testament selon la chair et le testament selon l'esprit. Les 2 testaments, cependant, se réduisent à un seul, de même que les 2 langues n'ont qu'une seule et même forme. De leur témoignage, pleine est la terre. Sur le côté gauche également, les nuages évoqués tirent 2 langues, séparées les unes des autres comme 2 ruisseaux qui sourdent et qui se tournent vers la dite roue et vers la dite figure. Lorsque l'homme est l'objet des attaques des tentations diaboliques, il concentre en son esprit comme 2 testaments. L'amour de Dieu et celui du prochain, distinct dans une certaine mesure. L'amour qui tend vers Dieu, en effet, est plus grand que l'amour du prochain. Il éteint aussi bien la roue des soucis du siècle que le désir des luttes charnelles, par l'irrigation de son juste conseil. Ainsi, comme nous l'avons dit, la figure est embrassée, entourée de ses signes, car le croyant fidèle séide des traces du Fils de Dieu, défendu et orné de la luminance des béatitudes, est entouré de telle sorte que, l'arrachant aux embuscades du diable, ses vertus le conduisent dans le bonheur à la béatitude des joies supérieures. Là, pour l'éternité, il jouira, ainsi qu'en témoigne Isaïe, mon serviteur, Isaïe 34:16, celui-là habitera là-haut, il se réfugiera en une citadelle bâtie dans le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Entendons-le ainsi, quiconque passe de gauche à droite, Quiconque veille à ce que Dieu repose en un cœur humble et calme domine le diable. Il lutte avec soi-même et il dit « Dieu de ses deux yeux m'a illuminé. Grâce à ses yeux, je médite sur la gloire que tient dans les ténèbres la lumière. Grâce à eux, je puis choisir la voie de l'ascension. Je reconnais que j'ai le choix, la voyance, la vision ou l'aveuglement. Et je connais le guide que j'invoquerai pour le jour ou pour la nuit. Quand je m'enferme dans les ténèbres, je suis capable d'actes licencieux, d'actes que je n'ai pas la force d'accomplir dans la lumière. Parce que tous ceux qui m'entourent sont mes spectateurs. Dans les ténèbres, cependant, je n'obtiendrai aucune récompense, sinon un châtiment condamnable. Aussi entraverai-je l'angoisse de mon cœur, le divertissement du péché, pour invoquer le Dieu vivant, pour crier la présence intérieure de Dieu. Invoquer à l'intérieur. Afin que Il me guide sur la voie de lumière, guérisse mes plaies, et afin que dans la lumière je n'ai pas à rougir d'elle. En agissant ainsi, je verrai que les liens de ma prison se briseront. Et captif, je tiendrai mon ennemi, dont j'ai écouté les suggestions dans les ténèbres, et qui s'est trompé à mon égard. Quiconque en effet œuvrerait ainsi résiderait au sommet des cieux, et le Christ, rocheuse forteresse, serait sa sublimité. Il y recevra le pain de vie, un réconfort que personne ne peut dédaigner, et dans la suavité de la charité véritable, sa joie sera pérenne. Comme rivière, il jaillit de l'eau de vie par le don de l'Esprit Saint. Toutes ses œuvres coulent en une telle sainteté que les contempleront les yeux de colombes de l'Esprit Saint. Ces eaux ne sont-elles pas les fidèles, ces eaux qui ne seront ni vidées ni desséchées et dont l'homme jamais ne sera rassasié? C'est qu'elles coulent de l'Orient. C'est qu'aussi longtemps qu'il demeurera dans le corps, l'homme ne sera spectateur ni de leur altitude ni de leur profondeur. Car les eaux qui permettent la naissance nouvelle de l'homme, c'est le Saint-Esprit qui les verse. Ainsi, le croyant verra le roi dans le décor de la béatitude. En sa science, il discernera la terre des vivants, des péchés. Par le cœur et par le corps, il prendra grande distance. Qu'il considère donc que choisir. Tu vois donc que de la bouche de la figure ci-dessus, qui en sa poitrine porte la dite roue, la lumière qui sourd, qui est en train de sourdre, est plus claire que la lumière du jour. Elle ressemble à un entrelac. C'est que la révolution du monde repose dans la science d'une vertu, l'amour véritable. C'est que son ordonnance, en sa très grande élégance, domine tout dans la lumière. C'est qu'elle tient tout, c'est qu'elle relie tout, et c'est ainsi qu'elle s'avance. Grâce à cet entrelac, une mesure juste et équilibrée mesure les signes des différents cercles, les signes des différentes figures qui sont étendues dans cette roue, les signes particuliers des membres de la forme humaine qui en cette roue apparaissent. Nos propos le montreront et le démontreront. Par cette mesure, l'amour, comme il convient, distingue les énergies des éléments. Les éléments, ce n'est pas les énergies. Les énergéia, les éléments, c'est les forces concrètes. Les énergies, c'est leurs accomplissements. Donc je reprends. Les énergies des éléments, celles de tous les autres ornements supérieurs qui servent à l'édifice et au décor du monde, tout autant que l'assemblage des membres de l'homme qui en ce monde l'emporte avec harmonie. Avec harmonie, l'amour adapte tout à sa juste mesure, ainsi que nous l'avons à maintes reprises explosé. Or, par cet amour véritable, tout entier divin, existe ce bien plus précieux, plus désirable que tout. Tous ceux qui le cherchent, il les attire, il les rassemble autour de lui. Dans un juste jugement, il apprécie les mérites des célestes désirs, les mérites de ses plaintes spirituelles dont l'impulsion est divine, tout autant que toutes les œuvres de l'homme qui s'affirment pour la mort de Dieu. Oui, c'est ça qu'il y a dans les énergies de l'Eucharistie, hein, tout ça, toute cette description à chaque fois. C'est ça qu'il faut voir. Évidence pour ceux qui aiment Dieu d'un amour parfait. Comme je dis moi-même par Jérémie, mon serviteur, 17-10, moi, Ewa, je scrute le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun d'après sa conduite selon le fruit de ses œuvres. Entendons-le ainsi, les amants véritables de Dieu ne doivent chercher personne d'autre que lui. Par le fermoir d'un faux prétexte, toute insinuation, ils refusent à l'égard d'un autre projet de leur concupiscence. Même si, ainsi que l'a montré la tentation d'Adam, l'homme à bien des reprises réalise ses volontés. C'est que l'homme à la fois ne peut servir Dieu et le diable, puisque le diable déteste ce que Dieu aime, et réciproquement. Il en va de même pour l'homme. La chair se réjouit dans les péchés, l'âme, elle, est altérée de justice. La lutte qui les oppose est chaude. Les deux parties sont contradictoires. L'œuvre de l'homme en ce grand combat, cependant, s'achève, car le serviteur est contraint de servir son maître. Or, la chair se soumet, l'âme, et entre en péché. L'âme subjugue la chair et elle accomplit l'œuvre bonne. Lorsque l'homme marche selon le désir de son âme par amour de Dieu dans la concupiscence, il se répudie lui-même, il se dit étranger. C'est ce qu'ont fait les justes et les saints, et Abel aussi, quand vers Dieu il leva les yeux. Or, quand fut versé le sang d'Abel, la terre entière trembla. Tant que, ensuite, elle se donna le nom de veuve. Comme une femme en effet privée dans le veuvage de la consolation de son époux, la terre, par l'homicide de Caïn, fut privée de toute sa sainteté. Or moi, le Seigneur, je scrute les cœurs contrits de tous ceux qui négligent les péchés. J'examine les reins de ceux qui s'abstiennent de leur goût. Je rétribue l'homme selon la peine que lui en a coûté la route accomplie, selon le fruit que produit son débat intérieur. Car en face de moi, je tiens le registre de tout ce que l'homme fructifie. Juste, en effet, est celui qui dit non aux injonctions de sa concupiscence. De juste, il ne peut porter le nom, celui qui suit dans ses désirs toutes les injonctions de sa propre volonté. Quand il s'est converti au bien, dans le sang de l'agneau, ses plaies sont lavées. La célèbre cohorte, au vu de cette guérison, ne peut qu'entonner la louange d'un Dieu digne d'admiration. Aussi l'homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, qu'il ouvre à ses paroles la dévotion de son cœur, qu'il les sache proférer pour le salut des corps et des âmes des hommes. Non point de bouche d'homme, mais par moi qui suis. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, merci beaucoup de votre attention. Voilà, dans une demi-heure, nous célébrons la messe, vous pouvez vous détendre.